Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Gitano, le cœur qui va sur ma peau. on a page. The sun is low, she is done, and she knows this is middling. Free man, free someone waiting for me. Oh, it soothes my soul, and it's something I know. This is middling.
Like a- désir des vautours. Personne pour entendre mes hauts secours. Devant toutes ces barrières, devant toutes ces manières, j'ai pris les rênes sans effort. Ouh, 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 ouh.
I can feel the sunshine in my life.
Mais je me sentirai toujours mieux avec toi.
I'm happy to meet you the most.
Ce que je sais, c'est t'avoir à mes côtés.
I can feel the sunshine in my life.
Mais je me sentirai toujours mieux.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Bertrand Huetz.
Voilà le titre de mon message, c'est être tout proche de Jésus. Alors quand je mets trois tout, ne croyez pas que c'est parce que je bégaye aujourd'hui, mais parce que j'aimerais vous donner au moins trois raisons qui me semblent importantes pour lesquelles nous devons les uns et les autres nous tenir tout près et tout proche de la personne de Jésus. J'aimerais lire avec vous un texte dans Marc chapitre 6, versets 6 à 34. Voilà ce qu'il est dit là. Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner son enseignement. Il appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur fit ses recommandations. Ne preniez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas deux chemises. Il leur dit encore, quand vous arrivez quelque part, restez dans la maison où l'on vous invitera jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là, secouez la poussière de vos pieds, ce sera un avertissement pour eux. Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus car sa réputation s'était répandue partout. Certains disaient « Jean-Baptiste est revenu d'entre les morts ». C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Mais d'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore disaient, c'est un prophète, pareil à l'un des prophètes d'autrefois. Quand Hérode entendit tout ce qu'il se racontait, il se dit, c'est Jean-Baptiste. Je lui ai fait couper la tête, mais il est revenu à la vie. En effet, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de le jeter en prison enchaîné. C'était à cause d'Hérodiade qu'Hérode avait épousé, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade était remplie de haine contre Jean et voulait le faire exécuter, mais elle ne le pouvait pas. En effet, Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé. Pourtant, il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade le jour de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci donna un banquet aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment solennel, « Je jure de te donner ce que tu demanderas, même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean, Jean-Baptiste, sur un plat. » Le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui opposer un refus à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Puis il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Celle-ci la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent la nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mit dans un tombeau. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque, seuls vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens le virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Et je termine par le verset 34, quand Jésus sortit de la barque. Il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Trois raisons pour lesquelles il nous faut rester proche de Jésus. La première, c'est être proche de Jésus pour ressembler à Jésus. La seconde, c'est être proche de Jésus pour discuter avec lui, l'écouter, lui obéir, mais lui partager également ce que nous vivons. Et puis le dernier point que j'aborderai, c'est être proche de Jésus pour avoir son regard, sa compassion. Premier point, nous devons ressembler à Jésus. Voyez-vous, j'ai remarqué que plus nous sommes proches d'une personne, plus nous ressemblons à cette personne. Plus nous sommes proches d'elle, plus petit à petit et de manière durable, lorsque nous sommes proches d'une personne, nous lui ressemblons. Nous devons nous rapprocher de Jésus pour lui ressembler. Malheureusement, et nous le constatons souvent, certains sont proches de situations compliquées et difficiles. Mais je crois qu'être proche de Jésus nous permet de dire que lorsque nous vivons des passés difficiles, eh bien cela ne doit pas être une fatalité. Mais ressembler à Jésus, c'est sortir de ce, pour certains, mauvaises personnes ou mauvaises situations dans laquelle ils ont grandi, à laquelle ils ont ressemblé, pour ressembler petit à petit à la personne de Jésus. L'idéal, c'est d'être proche de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est 100% parfait. Lui n'a pas de défaut. Dans les quatre coins de sa vie, quand même la terre est ronde, on ne trouverait aucun défaut. Il est parfaitement parfait. Et c'est tellement important d'essayer de ressembler à celui qui est parfait. J'ai écrit un texte de ce que j'aimerais être en 2018. Et je voudrais vous le lire. Alors souvent, j'entends certains disent, moi je préfère ne pas dire trop de choses, comme ça en fin d'année je suis pas déçu de ce que j'ai pas fait ou de ce que j'ai pas été. Eh bien moi j'aimerais vous dire, vous devez aspirer à ressembler à tout l'exemple parfait que Jésus a été. J'aimerais être joyeux comme l'a été Jésus. J'aimerais être doux comme lui. J'aimerais ne pas être orgueilleux, prétentieux. J'aimerais ne jamais m'irriter, ne dire que la vérité. J'aimerais avoir une foi qui déplace les montagnes. J'aimerais aimer au point d'être capable de donner ma propre vie. J'aimerais ne faire exception de personne. J'aimerais me maîtriser en toutes circonstances et me mettre en colère uniquement quand c'est une sainte colère. J'aimerais ne pas être jaloux de la réussite des autres, mais au contraire me réjouir quand ils sont meilleurs que moi. J'aimerais être capable, comme Jésus, de regarder le potentiel des gens et de les accompagner pour qu'ils deviennent des hommes d'onction. J'aimerais être capable de n'être jamais inquiet, parce qu'ayant toujours l'assurance que Dieu maîtrise tout. J'aimerais voir Dieu toujours répondre à mes prières, parce qu'elles sont toujours au diapason avec la volonté du Père. J'aimerais pleurer avec ceux qui pleurent. J'aimerais, quand je marche dans la rue, ne croiser personne sans être bousculé dans mes tripes par le désir de les voir être sauvés. J'aimerais être capable, comme lui, de dire, si tu n'as pas d'argent pour payer tes créanciers, va acheter une sardine ou un thon chez le poissonnier, en fonction de la taille de ta dette. Et tu trouveras dans son ventre de quoi payer ta dette. J'aimerais aimer encore plus ceux qui disent du mal de moi, pardonner encore davantage ceux qui m'ont blessé. J'aimerais d'ailleurs ne jamais être blessé, parce que le moi de ma chair serait définitivement mort. J'aimerais avoir la sagesse de Jésus. J'aimerais faire cela sans que jamais la gloire ne soit rendue à personne d'autre qu'à Dieu et à Dieu seul. J'aimerais aller un jour dans une ville et en y sortant dire « tous les malades ont été guéris ». J'aimerais que Jésus ait toujours la première place dans ma vie. J'aimerais, quand les héros de mon parcours, peut-être mes voisins, des collègues de travail, j'aimerais que, comme lui, quand ils me regardent et disent, on dirait Jésus tellement il lui ressemble, tellement il fait tout comme lui, tellement son visage est rayonnant. J'aimerais qu'ils disent cela. J'aimerais encore tellement de choses. Mais en finalité, ce que j'aimerais le plus, c'est être tellement proche de Jésus que tout ce que je viens de citer n'a que peu d'importance. Parce que juste être avec lui me suffirait. Voilà ce que j'aimerais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de j'aimerais, mais que Dieu nous aide à être proche de lui. Dans Marc chapitre 6 verset 14, il est dit « Or le roi Hérode, et nous l'avons lu, entendit parler de Jésus, car sa réputation s'était répandue partout. » Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est quelle est notre réputation? Que dit-on de nous? Je ne parle pas de ceux qui, parce qu'ils ne nous aiment pas, nous font une réputation qui est faussée parce qu'ils veulent nous détruire. Mais je parle de ceux qui veulent construire avec nous, qui sont à nos côtés et aux côtés de Jésus. Que disent-ils de nous? Que dit ton épouse de toi? Que dit ton mari de toi? Y a-t-il dans ce que tu vis, dans ce que tu es, quelque chose de Jésus en toi? Hérode pensait, beaucoup d'ailleurs à côté de lui, pensaient que l'esprit qui était en Jésus, de qui ils avaient entendu parler, était l'esprit d'Élie. D'autres pensaient que c'était l'esprit des anciens prophètes. Hérode lui-même, qui était travaillé parce qu'il venait de faire décapiter Jean-Baptiste, pensait que l'esprit de Jean-Baptiste était en Jésus. Vous voyez la réincarnation, hein? Et je pense qu'Élie, que les anciens prophètes, que Jean-Baptiste auraient été honorés de voir qu'ils sont comparés à la personne de Jésus. Peut-on vous comparer à la personne de Jésus? Parce que finalement, plus vous lui ressemblez, plus ce que vous êtes, ce que vous manifestez, parle de la personne de Jésus. Votre épouse, votre époux, peuvent-ils dire, lui, il ressemble à Jésus parce qu'il est comme ceci ou comme cela? Deuxième point, être tout proche de Jésus pour l'écouter, lui obéir, mais partager également ce que l'on vit. Tu dois écouter Jésus. Et il est important pour que tu l'écoutes, que tu sois proche de lui. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6 que nous devons rentrer dans le secret de notre chambre. Rentrer dans le secret. Parce que là, dans le secret de notre chambre, nous sommes isolés avec lui. Nous ne sommes pas à la merci de tous les bruits qui essayent de nous détourner de ce que Jésus veut nous communiquer. Le portable, la télé, Internet, les membres de notre famille. Tant d'éléments qui peuvent nous disperser pour nous éviter d'être proches de celui qui finalement veut partager avec nous, veut parler avec nous et nous permettre d'entendre ce qu'il veut faire avec nos vies. Dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, il est dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout. Vous savez, l'hypocrisie pour moi, ce n'est pas que prier debout pour que les autres vous voient. D'ailleurs, dans le secret de votre chambre, normalement, il n'y a que vous et le Seigneur. Mais pour moi, l'hypocrisie, ce serait aussi de prier tout en ne voulant pas entendre ce que Dieu a à nous dire. On prie tellement, on parle tellement, que la prière dans le secret de notre chambre devient un monologue. Alors que Dieu voudrait un dialogue, bien sûr nous devons lui parler, mais nous devons également être capables de faire silence pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et nous sommes hypocrites lorsque nous n'acceptons pas d'écouter ce qu'il a à nous dire, quand ce qu'il a à nous dire est différent de ce que nous avons envie d'entendre. Et des fois, nous sommes comme ça avec le Seigneur. Nous arrêtons des décisions, nous parlons de telle manière qu'il n'ait pas le temps, lui, de nous parler pour essayer, tout au moins, de nous permettre d'avoir non pas nos positions, mais ses positions à lui. Si vous rentrez dans le secret de votre chambre, ne soyez pas hypocrite, acceptez de l'écouter. Et voyez-vous ce qu'il est dit plus tard, ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. Je crois que la récompense, elle se situe non pas seulement dans ta capacité à parler à Dieu, mais elle se situe également dans ta capacité à prendre du temps pour l'écouter et pour accepter ce qu'il veut te dire. Jacques chapitre 1 verset 19, ainsi donc mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et il y a des choses que dans le secret de notre chambre, Dieu veut nous dire. Nous ne devons pas être perturbés par les bruits extérieurs. Mais je crois que des fois, le secret de notre chambre, c'est cela. C'est rentrer dans votre chambre pour qu'aucun bruit, ni extérieur, ni intérieur, le bruit du désir de faire votre propre volonté, vous devez le faire taire. Qu'aucun de ces bruits, ni extérieurs ni intérieurs, ne vienne faire obstacle à ce que Dieu veut vous permettre de faire. J'aime cet exemple dans la parole de Dieu d'un homme formidable qui a su écouter Dieu. C'est Moïse, dans Exode chapitre 14. L'un des plus grands miracles dans la parole de Dieu, c'est la mer Rouge qui a été ouverte. Et vous savez comment commence ce miracle ? Il commence par ces mots, le Seigneur dit à Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu a pu utiliser Moïse ? Parce que Moïse était dans une attitude d'écoute de ce que Dieu voulait lui dire. Et la récompense de Moïse a été que Dieu a manifesté sa gloire, parce que Moïse a su l'écouter. Exode chapitre 14, versets 1 à 4, lorsque vous lisez la préparation du miracle de l'ouverture de la mer Rouge, regardez bien, je ne sais pas si on aurait été disposé à obéir. Hein. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer. Autrement dit, Dieu lui demandait d'aller dans un cul-de-sac. Dieu voulait être certain que Moïse n'avait aucune possibilité humaine pour s'enfuir. Et il lui a demandé d'aller dans ce lieu. Peut-être que Dieu nous emmène ou nous entraîne dans des cul-de-sac qui finalement n'amèneront que la bénédiction. Peut-être que vous avez l'impression que la situation que vous vivez s'empire, et lorsque vous écoutez Dieu, vous avez l'impression qu'elle s'empire encore davantage. Et Dieu continue et il dit, c'est là que vous installerez votre camp en face de Baal-Séphon près de la mer. Le pharaon pensera que vous errez tout affolé dans cette région, prisonnier du désert. Dieu va même permettre, par rapport à ce qu'il vous demande, que vos ennemis pensent que nous sommes affolés, apeurés, démunis, prisonniers, faibles d'esprit. Combien on entend de personnes qui ne connaissent pas l'Évangile dire que les chrétiens sont faibles d'esprit. Mais ne soyez pas irrités lorsque l'ennemi pense cela de vous. Peut-être que Dieu les a amenés au point où ils pensent cela. Et il continue en disant, je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Non seulement Dieu vous place dans un cul-de-sac, non seulement il te met dans une situation où tu as l'impression que tes détracteurs se rient de toi, mais plus encore, il fait rager vos ennemis qui deviennent encore plus dangereux et plus méchants à votre égard. Quand tu vis ça, alors j'aimerais te dire réjouis-toi, parce que maintenant, tous les ingrédients sont réunis pour que Dieu puisse accomplir un miracle. Voilà ce qu'il dit, je manifesterai ma gloire. Si tu fais ce que je te dis là, je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agiront selon ses instructions. Vous connaissez ensuite la suite de l'histoire. La mer Rouge s'est ouverte et Dieu s'est glorifié. Amen. Mais ce qui m'a plu dans cette phrase, c'est que Dieu a aussi dit, parce que son désir a été que son nom soit glorifié, son désir a aussi été que les Égyptiens sachent qu'il est le Seigneur. Dans sa grâce, Dieu veut sauver également ceux qui aujourd'hui sont nos ennemis, mais qui au travers des miracles que nous allons laisser Dieu accomplir parce que nous sommes prêts à l'écouter, eh bien Dieu se manifestera, les touchera et les sauvera. J'aimerais vous dire également, et face au texte qui a été lu, en particulier Marc chapitre 6, verset 30, les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Ce qui est important, c'est d'écouter Jésus. Et je crois que, sans vouloir vous donner de moments précis, mais les moments les plus précieux sont les moments du matin. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore l'esprit et la tête embuée par tout un tas de choses qui peut-être dans la journée peuvent se rajouter pour créer des obstacles afin que nous n'écoutions pas le Seigneur. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous devons le matin, alors bien sûr il y a tout un tas de situations qui font que c'est compliqué ou difficile, mais les chrétiens doivent être des réveilleurs de coq. Et si le matin nous devons être prêts à écouter ce que Dieu veut faire dans la journée, le soir nous devons être prêts, comme l'ont fait les disciples qui étaient là, à nous tenir dans la présence de Dieu pour lui raconter tout ce que nous avons vécu. Dans les textes que nous avons lus, il est dit que Jésus les a envoyés, il s'est produit des miracles, ils ont vu des vies être transformées et des démons ont été chassés. Puis-je vous poser une seconde question ? Depuis quand n'êtes-vous plus venu à Jésus pour lui raconter les merveilleux miracles qui vous a permis de vivre ? Depuis quand n'avez-vous plus vécu la puissance de Dieu manifestée ? Alors peut-être certains vont me dire, mais ça c'était pour les disciples. N'êtes-vous pas des disciples ? Oui, mais c'était pour les apôtres. Marc chapitre 16, versets 15 à 18, je rappelle ce texte à votre bon souvenir. Jésus leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Vous savez, quand vous annoncez la bonne nouvelle, vous vous mettez dans une situation miraculable. Celui qui croira et sera baptisé, il n'est pas marqué celui qui sera apôtre ou prophète, hein, Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom, ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boiront du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Est-ce que vous venez dans la présence de Dieu le soir pour lui raconter tout ce que vous avez vécu? Si tu t'approches de Jésus, alors écoute-le te parler, mais laisse-le t'envoyer comme il l'a fait pour ses disciples, afin de prier pour ceux qui malades ont besoin d'être guéris. Et je termine, être proche de Jésus pour avoir son regard. Vous savez, lorsque vous lisez ce verset 30 du chapitre 6, les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné auprès de Jésus, proche de lui. Il y avait deux sortes de persécutions. Il y avait la persécution version Hérode, qui était une persécution violente, qui consistait à couper la tête de ceux qui croyaient. Et puis, il y avait une autre persécution. Je vais vous dire laquelle. C'est la persécution de ces gens qui les pressaient parce qu'ils avaient des besoins. Socialement, ces gens